Le récit de Layli. Dernier chapitre. Alpha venait de naître. Son père, Virgile, était mort assassiné en tentant de franchir les barbelés de Mélila. Ma tentative d'entrer en Europe avait tourné au fiasco. J'avais entendu ces récits de femmes qui veulent passer tout de même avec leur bébé et finissent par devenir folles à s'accrocher à un petit cadavre mort dans le désert ou pendant la traversée. Je suis retournée vivre à Ségou. J'avais envie de revoir Bambi. J'avais envie de présenter Alpha à ses grands-parents. J'étais fatiguée, Ruben. J'avais survécu à deux départs. J'avais frôlé la mort. J'avais frôlé l'Europe. Je n'avais plus la force de continuer. Il en fallait déjà tant pour reculer. Revenir à Ségou, c'était échouer. Malgré la douceur de mon père et de ma mère, malgré les jeux des cousins de Bambi, malgré les palabres des voisins. Mon père, jadis, m'avait trop raconté d'histoires, de contes, pour que je puisse faire croire à mes enfants que le fleuve était un océan, qu'il n'y avait rien au-delà, que les radios, les livres et les écrans télé mentaient. Vous comprenez cela, Ruben ? Évidemment, vous comprenez. Je devais trouver un moyen de leur offrir une autre vie. Des moyens légaux, comme dit la chanson. Envole-moi, envole-moi. J'étais plus attirante que les autres, je crois. J'étais plus intelligente aussi. J'aimais les livres. Ça plaisait à certains garçons, ceux de la ville, les ambitieux, ceux qui ne resteraient pas ici, ceux qui réussiraient. J'ai rencontré Wail lors des élections présidentielles de 2002. Wail faisait campagne dans le cercle de Ségou pour le parti d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il prétendait qu'Ibeka serait un jour président. Alors il militait tout en suivant des études de droit et en rédigeant une thèse sur la démocratie. Wail était issu d'une famille de commerçants de Kaï, beaucoup plus riche que la mienne. Il portait des petites lunettes, s'habillait à l'occidentale, glissait toujours un livre de philosophie ou d'économie dans sa poche. Il m'appelait sa petite princesse, ma Simone quand il se prenait pour Sartre, ma Colette quand il se prenait pour Senghor, ma Winnie quand il se prenait pour Mandela. J'aimais ça. Même s'il avait été élu conseiller municipal à Ségou, il passait beaucoup de temps à Bamako, au parti. Il voulait devenir député. Il voulait que je vienne le rejoindre, avec ma fille, que j'étudie. Il aimait beaucoup Bambi. Elle était déjà grande pour son âge. Dans 3 ou 4 années, on pourrait l'inscrire au lycée de jeunes filles de Bamako. On pourrait prendre un appartement dans le quartier de l'hippodrome. À condition que je laisse Alpha, le bagarreur, la terreur. Wail n'aimait pas beaucoup mon fils. Un enfant né d'un viol, selon lui. Et plus je prétendais le contraire, plus Wail se mettait en colère. Il détestait que j'évoque ma relation passée avec Virgile, car même si Wail était un arriviste prétentieux, il avait cette intelligence de comprendre que de tous les hommes qui m'avaient protégé, Virgile était le seul à qui j'avais tout donné. Wail n'aurait jamais que mon admiration, une alliance de raison, jamais ma passion. Je suis tombée enceinte alors que Wail était en 4e année de thèse. On vivait entre Ségou et Bamako. Je le rejoignais le plus souvent possible. Je travaillais un peu pour le centre Djoliba. Je triais des journaux. Tidiane est née en 2006. On vivait d'espoir. La thèse de Wail serait bientôt terminée. Il aurait bientôt un poste à l'université. Il serait bientôt député. Ses parents lui donneraient bientôt assez d'argent pour qu'il s'achète 7 appartements. Bientôt, 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 Ruben. On construit des vies entières avec des bientôt à Bamako. L'Afrique est le continent du bientôt. Mais en Afrique comme ailleurs, les hommes sont pressés. Un beau jour, Wail m'a annoncé qu'il avait décroché une bourse de la coopération francophone canadienne pour partir finir sa thèse au Québec. Une opportunité impossible à refuser. Une chance unique. Wahil me serrait dans ses bras. Il en tremblait. Même si ce n'était que pour quelques mois, le Canada. Le Canada ! Il répétait ce nom comme un explorateur. Il me ferait venir là-bas. Bientôt. Je crois que je n'ai pas besoin de m'appesantir sur la suite, Ruben. Les premières semaines, nous passions des heures à nous connecter aux réseaux sociaux. Il avait le mal du pays, de Bambi, de son bébé, Tidi. Il avait froid, il avait le vertige. Il rêvait du Niger devant le Saint-Laurent. Puis nos échanges se sont espacés. Mais Wahil restait toujours connecté. Je le suivais à travers les photos de sa page Facebook, ou celles de ses amis, des Maliens, des Africains du Québec, presque tous étudiants comme lui. Des photos sur lesquelles il n'avait plus froid. Des soirées où il buvait. Des nuits où il dansait. Les premiers mots de Tidi, l'entrée au collège de Bambi, l'intéressaient moins. Les mêmes visages l'entouraient sur Facebook. Wahil se fabriquait une nouvelle famille. Toujours revenaient les mêmes filles. Puis, bientôt, toujours la même fille. Sur ses genoux, autour de son cou. Elle s'appelait Grace. Elle était étudiante en anthropologie. Wahil ne postait aucune photo d'elle sur sa page, mais elle en postait, explicite, sur la sienne. Les commentaires ne laissaient aucun doute. Wahil et Grace étaient en couple. Un soir, j'ai franchi le pas. J'ai posté ma demande à Grace. Layli Mal veut être ton amie. Elle a accepté. J'ai compris qu'elle ne savait pas qui j'étais. Qu'elle ne savait même pas que j'existais. J'ai seulement réalisé alors que Wahil ne mentionnait jamais Tidi sur son site. Le même soir, j'ai adressé à Grace et Wahil un message de félicitations avec une photo de moi et Tidiane dans mes bras. Ils ne m'ont jamais répondu. Je suppose qu'ils ont passé la nuit à discuter. Grace avait dû lui faire une sacrée crise de jalousie. Je ne sais pas ce que Wahil a pu lui raconter pour se défendre, mais il a fini par gagner. Le lendemain, je n'apparaissais plus dans la liste de leurs amis. J'ai continué, dans les semaines, les mois qui ont suivi, à aller sur leur page. J'y vais encore parfois, Ruben. Il faut croire que j'ai pris goût au malheur. Ils se sont mariés. Ils habitent Montréal, ils ont un enfant. Il a 2 ans de moins que Tidiane. Tout va bien. Si un jour je revois Wahil, peut-être devrais-je le remercier. Cela vous surprend, Ruben ? Je vais vous expliquer. Un soir d'octobre, je me suis connectée. C'était l'anniversaire de leur petit Nathan, né le lendemain d'Halloween. Il avait fêté ses 3 ans avec ses amis québécois, moitié blanc, moitié noir. Peu semblait importer, la seule couleur qui comptait était l'orange des citrouilles, des jack-o'-lantern, des déguisements d'enfants dans les pavillons, des pluies de bonbons, de la soirée terminée au McDo, puis au parc d'attractions de la Ronde. Les heureux parents avaient posté tout un album photo de cette inoubliable journée. Tidiane avait fêté son anniversaire quelques mois plus tôt. Je n'avais rien pu lui offrir d'autre que des sourires. Autant de sourires que tu veux, mon enfant. Des sourires comme la pire des hontes. Je savais bien qu'avec Tidi, Alpha et Bambi, jamais je ne pourrais passer de façon clandestine en Europe. C'était terminé. Alors, j'ai échafaudé un autre plan. J'ai vendu quelques bijoux du butin d'Adil, ce butin maudit auquel je m'étais promis de ne pas toucher. Et avec toute ma famille, mes 3 enfants et mes parents, nous sommes partis pour le Maroc, à Rabat. Des cousins lointains tenaient un restaurant. Ils cherchaient du personnel. Nous nous sommes installés avec un permis de travail officiel. Le Maroc, ce n'était pas l'Europe, mais c'était une première marche. Ma mère souffrait du dos, mon père d'arthrose, Son métier de potier ne lui rapportait presque plus rien. Je les avais convaincus que Rabat serait un Eldorado avec des médecins, des hôpitaux, de vrais salaires. C'était vrai. Rabat était un Eldorado, même si je leur avais menti sur tout le reste. Je ne leur avais pas parlé de mon projet, pour ne pas les effrayer. Au fond de moi, Ruben, je peux vous l'avouer, je n'avais jamais renoncé à passer. En Europe, en France, légalement. Les cousins qui tenaient le restaurant à Rabat, dans la Casbah des Oudaya, en possédaient un autre à Marrakech, un troisième à Essaouira et un dernier à Marseille. Je vais vous faire une autre confidence, Ruben. Je suis la plus lamentable cuisinière de toute l'Afrique de l'Ouest, au plus grand désespoir de ma mère. On dit que les aveugles développent leurs quatre autres sens. Pas moi. Je déteste les odeurs. Je n'ai aucune patience pour découper des légumes et des épices pendant des heures. La vue d'une viande saignante, halal ou non, me révulse et je préfère mille fois passer mes nuits seule, écouteurs dans les oreilles, à nettoyer des supermarchés plus grands que des terrains de foot, plutôt que travailler sous les ordres d'un petit chef dans une cuisine. Pourtant, j'ai proposé mes services au Magot Berbère, à Marseille. Il n'avait besoin de personne, encore moins de moi. Alors, je leur ai précisé que je pouvais subventionner mon propre emploi. Me payer, Ruben, pour être plus clair. J'ai puisé une dernière fois dans le trésor d'année et je leur ai versé 15 000 euros au noir pour financer un an de CDD qu'ils me reverseraient en salaire déclaré. Ils avaient juste à rédiger pour le consulat une belle invitation comme quoi je n'avais pas d'équivalent sur toute la rive sud du Niger et encore moins en France pour cuisiner le fakou ouï et le poulet yassa. Qu'ils me voulaient moi et rien que moi pour 12 mois. Et après les 12 mois, avait demandé le cousin. Je ne pourrai plus te payer. Ton visa de travail aura expiré. Tu devras rentrer au Maroc. Si tu restes, tu seras en situation illégale. Je m'arrangerai, cousin. Je m'arrangerai. Je connaissais mes droits. La condition pour être régularisée était simple. Je l'avais relue tant de fois dans le formulaire de la préfecture des Bouches-du-Rhône. 3 ans de présence en France, pouvoir justifier de 24 mois de travail, dont 8 consécutifs sur les 12 derniers mois. Il fallait que je tienne 3 ans. 3 ans sans me faire prendre. 3 ans tout en travaillant, en payant des impôts, en justifiant d'un loyer. Ça peut sembler ubuesque, Ruben, mais ce sont les règles du jeu. Les sans-papiers, en réalité, les collectionnent. Les additionne. Comme des points de fidélité. Travailler n'est pas difficile si l'on accepte les corvées. 3 ans à supporter les humiliations, les traques, les arnaques, les chantages, l'esclavage. Mais je tenais bon du moment que je cumulais, mois après mois, mes semestres. J'acceptais même de travailler pour rien, rien que pour un bout de papier. J'ai fini par comprendre que c'était pour cela que l'État nous laissait tranquilles, nous, les invisibles. On cotise, on consomme, on se plie à tous les devoirs comme les autres citoyens, sans réclamer le moindre droit. Pendant 3 ans, 3 ans sans voir mes enfants, je cochais les jours, Ruben, caché. Je comptais les mois, jusqu'à 36. Et alors, je deviendrai une étrangère en situation régulière. Légalement. Tout était simple alors. Je pouvais faire venir mes enfants par la procédure de regroupement familial. Légalement. Légalement, Ruben. Vous m'entendez? Légalement. Je n'étais plus traqué. Nous avions gagné sans tricher. Plus rien. Plus personne ne pouvait nous séparer.